tous, auditeurs de Radio Saint-Ferréol 94.2. On se retrouve aujourd'hui, période de Cré Jazz, pour notre deuxième entretien du jour, avec les groupes qui passent sur le concours du Cré Jazz Vocal. Je dis Cré Jazz Vocal, mais ça ne s'appelle plus comme ça. Ça s'appelle le Cré Jazz tout court. Cela dit, sur les concours, on a quand même des groupes plutôt tournés vers le jazz vocal. Et on accueille en studio Lady Scott avec nous, qui sort tout juste de son set. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Lady Scott, c'est un nom de scène, peut-être ?
Oui, c'est un nom de scène. C'est mon alias. Pourquoi Lady Scott ? Bah, j'ai pris ça de Billie Holiday, qui se faisait appeler Lady Day. Lady Day. Voilà. Et puis, parce que j'avais envie d'être une jazz lady. Et Scott, bah, c'est mon nom de famille. Anglicisé, parce que je m'appelle Scotty en fait. Je m'appelle Delphine Scotty. Et j'étais déjà venue au Cré Jazz Festival il y a 3 ans sous ce nom propre, sous mon nom propre, Delphine Scotty.
Ok, Delphine Scotty avec une autre formation.
Avec une autre formation, un répertoire en français. Et voilà, on était un peu des outsiders, on va dire. C'était pas franchement jazz comme arrangement, mais voilà, on était très heureux d'avoir quand même une chance de s'exprimer sur cette scène il y a 3 ans.
Ok.
Bon, d'avoir été sélectionné.
Très bien. Donc tu reviens sur un terrain connu.
Voilà. Le Cré Jazz. J'avais la chance de connaître les lieux.
Il y a pas si longtemps. Tu n'as pas eu la malchance d'avoir une scène qui était orientée de l'autre côté, ouest.
D'accord.
Parce qu'il y a 2 ans, je crois, la scène était orientée de l'autre côté. Du coup, ça veut dire que les groupes jouaient en plein soleil.
Eh oui.
Donc, on n'a pas eu de défection. On doit reconnaître ça de la part des musiciens, des musiciennes, mais je pense que ce n'était pas très rigolo. Ok, du coup, Lady Scott, on va t'appeler comme ça pour cet entretien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes origines musicales, qu'est-ce qui t'a amené à la musique et puis au jazz, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être une lady
une jazz lady. Ben, j'ai commencé la musique parce que je suis issue d'une famille de musiciens. Mon oncle était guitariste et j'ai vécu pendant un certain temps chez mon oncle et ma tante qui était elle chanteuse et guitariste aussi. Et il faisait du swing manouche. Et voilà, et c'est tout naturellement que je suis venue vers ce répertoire parce que, au décès de ma tante, en fait, qui est morte très jeune, j'ai eu comme l'intention de reprendre un peu le flambeau et de reprendre la parole. Et voilà. Et c'était une expérience qui a tout de suite très bien fonctionné. Et du coup, à l'époque, j'étais prof de français et j'ai démissionné. La création du groupe est de 2011 et j'ai démissionné en 2013 ou en 2014 de l'Éducation nationale pour me consacrer entièrement à ce projet musical. Voilà.
Okay, donc une histoire de famille, une autre,
voilà.
Parce qu'en fait, de très nombreux musiciennes et musiciennes sont eux-mêmes enfants de musiciens, musiciennes. Le groupe précédent qui t'a juste précédé dans le studio, ils étaient toutes et tous enfants de musiciens. Bon, ça paraît un peu normal, ce type de reproduction. Tu parlais de swing manouche.
Oui.
Est-ce que, du coup, c'est ce qui a mis dans ton oreille cet amour pour le jazz plutôt swing ?
Oui,
est-ce que c'est le répertoire qui t'intéresse le plus, qui t'attire
le plus ?
Alors,
c'est pas le swing manouche, j'aime beaucoup ça, mais j'aime beaucoup comme ça sonne. Mais j'ai choisi de me rapprocher d'instrumentation aujourd'hui plus proche de Nat King Cole avec le piano, piano, batterie, contrebasse, des instrumentations très, on va dire, très traditionnelles qui sonnent comme les bandes originales de films qu'on faisait à l'époque, voilà. Et c'est vraiment ça qui me plaît, c'est cet univers en noir et blanc et me plonger dans cet univers-là pour composer à la manière de cette époque-là, voilà.
D'accord.
Et mon disque de composition, il sonne beaucoup musique en noir et blanc.
Quand tu comme dis les musique touches noir du piano, et blanc, c'est les années 30.
Oui,
c'est...
voilà, jusqu'aux années 50, voilà.
Ok. Ok. Et du coup, tu parlais du groupe qui a démarré. Donc, tu parles.
Alors, j'ai démarré en 2011, en fait, avec un guitariste au départ. Et j'ai sorti 2 disques avec cette personne. Et le parcours a continué bien plus tard, ensuite, en quartet. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes propres compositions avec l'équipe qui me suit aujourd'hui, avec laquelle j'ai sorti ce disque. Et c'est vraiment comme si ma carrière, elle commencer là, en fait, pour moi. Voilà. Okay.
Et le disque est sorti quand ?
Il est sorti en 2024, en avril 2024 ou en mars 2024.
Est-ce que tu peux nous donner son titre, si jamais ça intéresse ?
Happy Mess. Happy Mess, ça veut dire joyeux bordel en français.
Et c'est un jeu de mots.
Et c'est un jeu de mots avec happiness, le bonheur. Voilà, pour dire que parfois la recette est un peu la même, et surtout quand tu décides de vivre de ton art et de vivre de la musique, c'est pas facile. Et c'est ce que raconte le titre Happy Mess. Et voilà, je dis que je suis hors compétition, que j'aime pas les compétitions. Alors je suis ici quand même sur un festival, un tremplin, et c'est quand même un concours. Mais mon approche de la musique, c'est vraiment livrer avec le cœur. Voilà, et composer avec le cœur. Et j'essaie pas d'exceller, je suis pas une virtuose, mais je travaille avec sincérité en tout cas, et je mets beaucoup d'amour dans ma proposition musicale. Voilà, okay. C'est ma recette, c'est ça.
Je comprends.
C'est ce que raconte la chanson en tout cas.
Tu dis que ton premier album de composition donc est sorti en 2024, ça veut dire que c'était attendu?
Oui, ça fait
bon
très longtemps que c'était. Ouais, le processus de création a été très très long, tout simplement parce que j'ai mis du temps à trouver l'équipe avec qui je suis allée en studio, en particulier le pianiste, le contrebassiste. Je travaille avec lui depuis le tout début, donc c'est quelqu'un qui c'est vraiment un pilier de ce projet. Mais par contre, avant je travaillais avec des guitaristes. Enfin, ça a été très compliqué avant de trouver. Un binôme en fait. Je cherche pas un musicien pour m'accompagner, je cherchais un musicien qui soit co-leader du projet.
Pour alors, co-créer ta musique.
Voilà, exactement.
Okay. Et tu l'as trouvé en la personne de ce guitariste, c'est ça ?
C'est un pianiste.
Un pianiste, pardon.
C'est un pianiste qui s'appelle Damien Munoz et qui n'était malheureusement pas là aujourd'hui parce que j'ai travaillé avec une autre personne aujourd'hui, parce qu'on a été sélectionnés un peu sur le tard en fait. On était en liste complémentaire. Sur le tremplin de Cré. Et il y a un groupe qui s'est désisté. Et donc, on a finalement pu participer au tremplin. Mais entre-temps, le musicien n'était plus disponible.
Voilà. Oui, je comprends bien. D'autant plus que c'est quand même la période dans l'année.
Exactement.
Où les musiciens tournent pas mal.
L'effervescence, exactement.
Ouais. Ok, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Est-ce que tu as fait une formation musicale ou est-ce que tu t'es formé toi-même en autodidacte ?
Alors, j'ai suivi la formation du JAM à Montpellier. C'est l'école de la scène, école jazz de la scène à Montpellier, pendant plusieurs années, 2, 3, peut-être 4 ans, je ne me rappelle plus vraiment. Et je prenais des cours de chant aussi à côté. Et voilà, et c'est surtout sur le terrain, après en montant mon premier projet, en montant du répertoire, en essayant de composer des disques, voilà. Ça a l'air de rien, mais un disque, c'est comme un long métrage. Enfin, il y a un assemblage de titres, il y a tout un processus qui est très complexe pour assembler les morceaux, savoir dans quel ordre on va les mettre, quels titres on choisit, voilà. Et du coup, oui, c'est un métier qu'on apprend sur le terrain. Et surtout la scène. La scène, ça s'apprend sur scène. Sans public, on n'apprend pas la scène, c'est pas vrai.
Du coup, tes compositions, tu les écris en français, en anglais ?
Alors, je compose en anglais.
Okay.
Sur ce projet, bah justement pour que ça sonne vintage et vieux jazz et que ça sonne comme du Nat King Cole ou comme du Billie Holiday, eh ben on est dans l'esthétique jazz américaine, et donc j'écris en anglais.
Et est-ce que tu te tentes parfois à l'écriture en français ? Est-ce qu'il y en a une que tu trouves plus facile que l'autre ?
J'écris en français pour mon projet pop, là, mon projet de composition vraiment très, on va dire, très douloureux que j'avais présenté il y a 3 ans, qui a...
Douloureux dans sa gestation, tu veux
ouais,
dire ?
Ouais, douloureux dans les textes.
D'accord.
Et les chansons sont très, très chargées, on va dire. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'écris en français. Je fais beaucoup de slam, en fait. Okay. Mais dans le projet jazz, non, je compose spontanément en anglais. C'est une musique qui s'y prête beaucoup mieux, en fait. C'est une langue qui se prête beaucoup mieux à la musicalité du jazz. Voilà.
Oui, même voir à la musicalité tout court.
La musicalité tout court, ouais.
Voilà. Moi-même ayant été, m'étant essayé, on va dire, je trouve que phonétiquement.
Et les accents, l'accentuation, le flow, ouais. Le débit peuvent tout.
Je suis toujours admiratif quand je vois des artistes écrire en français.
Sur le jazz en particulier,
sur
c'est une
jazz.
Performance.
Ah, ouais.
Le seul qui m'a vraiment, vraiment convaincu, c'est Hugues Goldman. J'ai eu la chance de faire la première partie de Hugues Goldman, je ne sais plus, en 2020, je crois. Et du coup, lui, c'est un anglophone qui vit en France et il a composé une chanson magnifique en français. Je n'arrive plus à la retrouver, évidemment. Mais waouh! Et ça, c'était, il a réussi vraiment à faire swinguer notre langue. Et c'est assez rare que ça soit fait avec autant de classe. Voilà. Mmh.
On ne pourrait pas, peut-être pas citer Claude Nougaro, par exemple, ou d'autres.
Oui, mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire que Hugh Coltman, il a vraiment réussi à donner la même signature mélodique à l'anglais, au français, que celle de l'anglais. Okay. C'était vraiment bluffant. Okay. Ouais, il a réussi vraiment à.
Et ben justement, puisqu'on en est aux influences, aujourd'hui, alors j'ai compris que les influences qui avaient été les tiennes auparavant, ben on est dans le jazz des années 30, swing, peut-être un peu le jazz des grands ensembles aussi, et des jazz ladies. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres artistes plus contemporains qui peuvent t'influencer, te nourrir? Ou es-tu une nostalgique du jazz?
Moi, je suis plutôt une nostalgique, ça c'est sûr. Mais après, je vais citer des noms qui sont tellement connus. J'adore Mélodie Gardot et j'adore Madeleine Peyrou. Voilà, il y a ce côté, ces deux chanteuses-là que j'adore et qui peuvent m'influencer directement. Voilà. Mais sinon, dans les influences plus ancienne, c'est vraiment Billie Holiday, Nat King Cole, le côté chanson de Fats Waller, le côté léger aussi dans le texte, dans la façon de rieur un petit peu, voilà. C'est pour ça que j'appelle souvent mon répertoire Happy Swing, c'est-à-dire du jazz frais, léger, même s'il y a quelques chansons qui sont un peu plus mélancoliques, mais ça reste
festif et dansant.
Peut-être pas festif, mais c'est léger, voilà. Ouais. Okay. Même les propos un peu tristes laissent une empreinte de légère. Ouais, je ne sais pas comment le qualifier.
Tu parlais d'un projet pop que tu as par ailleurs. Ça veut dire que tu as d'autres projets que tu mènes en parallèle?
Oui. Alors ça a été des années. Depuis 2020, j'ai lancé ce projet pop en parallèle. Donc pop et chansons françaises, acoustiques, avec des textes qui sont très slamés, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de texte. J'ai tourné ça en ciné-concert parce que je collabore aussi avec un vidéaste qui a fait des clips magnifiques sur toutes les chansons que j'avais présentées justement à Créer il y a 3 ans. Je viens de sortir le deuxième disque. Le premier s'appelait Lutte Sensible. Le deuxième, là, qui vient de sortir au printemps, s'appelle Pirates. Et voilà. Et c'est très, très dur de mener 2 projets en parallèle, d'être leader de projet, productrice en autoproduction. De projets comme ça, c'est vraiment pas aisé.
Ouais, voilà. D'autant plus peut-être aussi des projets aussi différents, entre guillemets.
Très différents. Et celui en chanson française, c'est vraiment un répertoire de niche, quoi. Et je connais pas du tout ce secteur de la chanson française. Et le secteur de la chanson française ne me connaît pas. Donc voilà, je me suis un peu découragée, épuisée à. Mais par contre, et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, ces 2 disques m'ont guéri et m'ont délivré. Il y a tout un parcours de création qui est un parcours d'auto-guérison, en fait. J'avais fait une présentation très chamanique ici à Cré il y a 3 ans. Et c'est un parcours d'écriture et de réalisation musicale qui, à travers ces 2 disques, est un parcours de guérison. Et finalement, bon, voilà, j'ai peut-être pas percé avec ce projet, mais en attendant, j'ai mué personnellement et je me suis délivrée de beaucoup de charges psycho-émotionnelles. Voilà. Et j'espère que ces 2 disques pourront aussi œuvrer chez d'autres femmes de cette manière-là. Voilà.
Okay. Ouais. Et tu parles de femmes en particulier parce que c'est quand tu dis pourra œuvrer vers d'autres femmes.
C'est-à-dire
parce
qu'on a tout un peu des vécus douloureux.
Ça s'adresse plutôt aux femmes.
Ça s'adresse plutôt aux femmes, c'est une parole de femme, mais ça s'adresse à tout le monde parce que ça aide aussi les hommes à comprendre ce que traversent les femmes. Un piratesse, c'est la traversée des tempêtes jusqu'à la sérénité, la délivrance et la résilience de pouvoir faire un pas en avant à nouveau, quoi. Voilà.
Okay. Tu dis que tu es en autoproduction, ça implique quoi pour une artiste aujourd'hui?
c'est indescriptible, c'est des sacrifices énormes et des investissements énormes, et c'est ça aussi qui m'a usée.
Et concrètement, c'est par rapport à des artistes qui ont un support de production.
Oui.
Qu'est-ce qu'on doit faire pour quelqu'un qui ne connaît pas la production musicale?
J'ai un support de production, sauf que ce support de production, c'est moi qui l'ai créé. J'ai ma propre boîte de production. Et donc, j'avais cette amie dont j'ai parlé pendant le live, qui est malheureusement décédée, qui était la directrice de ma boîte de production. Mais c'est quand même moi qui ai créé cette boîte de production. Et du coup, voilà, c'est beaucoup d'énergie pour déjà créer la structure, faire tout le montage administratif, tous les papiers. C'est énormément d'énergie. Et c'est énormément d'argent parce que il faut en parallèle j'ai créé un tiers-lieu qui permet de drainer des fonds aussi vers ma création artistique, parce que quand on n'a pas de producteur, on n'a personne pour signer un enregistrement de disque, pour signer le pressage, voilà.
Ouais.
Et du coup tout ça c'est à mes frais, et je crois que c'est là où j'arrive à un point d'épuisement. C'est-à-dire que j'ai passé ces 15 dernières années à investir énormément pour mes chansons, comme un berger qui prend soin de son troupeau. J'ai envie de dire, mes chansons, c'est comme mon cheptel.
C'est comme tes brebis, quoi.
C'est comme mes brebis, voilà. Je veux qu'elles aient une belle vie, je veux qu'elles aient un beau support, je veux qu'elles aient des beaux visuels, des beaux clips, voilà, qu'elles soient chez les meilleurs diffuseurs. Mais tout ça, ça a un prix, en fait.
Mmh.
Et du coup, voilà. Là, j'arrive à la cinquantaine et j'ai une usure de ce métier parce que c'est...
Oui, c'est beaucoup de travail de toute façon, et puis
et d'investissement
y a
à
beaucoup
perte.
De
voilà.
Personnes aussi. Il y a beaucoup de gens sur la liste qui veulent arriver à parvenir.
Alors je parle même pas de la concurrence.
Ouais,
et
ouais.
À l'heure de l'IA, bon voilà. Bon. Non, je parle même pas de ça. Je considère pas que la concurrence m'empêche de percer. Je pense que c'est le système tel qu'il est, il y a une telle diversité d'offres que de toute façon on en est réduit à faire la musique parce qu'on l'aime et à tout donner pour elle, mais c'est vrai que c'est coûteux en temps, en argent, en énergie. Voilà, c'est coûteux, mais comme je vous disais, le bénéfice il est sur ma vie, sur qui je suis devenue à travers ce parcours et tous ces investissements. Voilà.
Oui, ça peut aussi être une thérapie ou en tout cas
exactement,
quelque chose qui nourrit, quoi.
C'est un parcours thérapeutique,
ouais, ouais.
Quelque part.
Et tu parlais d'un tiers-lieu. C'est un tiers-lieu qui est dédié à la création musicale ou...
Alors, au départ, c'était entièrement dédié à la création musicale. Et puis, plus on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup sollicité par du développement personnel. Donc au final, c'est beaucoup, beaucoup d'art-thérapie, tout ce qui est expression par le corps, par le geste artistique, par l'écriture, la voix, voilà. Et aussi d'autres aspects du développement personnel, le yoga, la sophrologie.
Okay. C'est dans la région montpelliéraine aussi.
Voilà, exactement, c'est à l'ouest de Montpellier.
Okay.
Et c'est plein d'outils, on a appelé ça un tiers-lieu de développement artistique et personnel. C'est-à-dire, c'est un peu ce que j'ai vécu.
Ouais,
c'est-à-dire,
oui,
à travers l'art.
Forme de thérapie par l'expression.
Je deviens. Voilà.
Okay.
Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que ça libère? Qu'est-ce que ça ouvre? Qu'est-ce que ça... Voilà, c'est un lieu qui est dédié à ça.
Ok. Est-ce qu'on aura l'occasion et la chance de t'écouter sur d'autres scènes bientôt?
Prochainement. Je suis dans la Drôme prochainement. Je joue pour Parfum de Jazz.
À Buis-les-Baronnies.
Alors voilà, alors je ne sais pas si c'est exactement à Buis-les-Baronnies, en tout cas c'est le 17 août,
oui.
Ça c'est sûr, et je serai en quartet, à Parfum de Jazz.
Avec le même quartet qu'aujourd'hui?
Exactement.
Ou... Ok, très bien. Et par rapport à ton projet Pirates, c'est un album à venir?
Alors l'album est sorti en juin.
Il est sorti en juin, donc très récemment.
En toute confidentialité, on va dire, parce que j'étais... au bout du processus de création et de production.
Mmh.
Et en fait, j'étais épuisée physiquement. Et du coup, je n'ai pas vraiment fait de sortie d'album. J'ai fait une sortie numérique, une sortie physique aussi. Ça sortira à la FNAC en septembre. Et je pense à la FNAC et surtout les diffuseurs matériels, de disques physiques. Mais je pense faire une sortie d'album en novembre. J'ai pas encore prévu la date ni le lieu. Et j'ai invité un très grand artiste de chansons françaises de la région de Montpellier qui s'appelle Dimonet à intervenir sur une chanson. Parce que comme je travaille beaucoup sur le féminin, j'ai été un peu étiquetée à des moments comme je vais pas dire la chanteuse hystérique, tu vois, mais un peu ce cliché féministe, vindicative.
Ah oui. Tu veux dire dans ta région d'origine ou dans la scène montpelliéraine?
Les propos que j'ai entendus, voilà, les retours que j'en ai eus. Okay. Et du coup, je trouve ça très limité, très
caricatural,
très réducteur et caricatural. Et surtout que mes chansons parlent énormément aux hommes. Donc je voulais aussi donner la parole à l'homme.
C'est peut-être pour ça.
Voilà. Oui, mais elles parlent aux hommes parce qu'ils traversent aussi ce qu'on vit. Beaucoup d'hommes traversent exactement les mêmes situations que les femmes. Et c'est pas parce que c'est une femme qui porte le texte et que c'est un propos entièrement féministe. C'est très humaniste, au contraire.
On veut l'écouter, donc tu le prononces pirates, mais ça s'écrit pirate.
Pirates.
Pirate
au féminin. E2SE.
Ok. Ouais. Très bien. Bah, si jamais les auditeurs, auditrices veulent trouver ça sur les plateformes,
ah oui, carrément.
Ça s'écrit piratée au féminin. C'est vrai qu'il n'y a pas de féminin de pirate. On se posait la question d'ailleurs récemment. Il n'y a pas de féminin de marin.
Oui, il y a beaucoup de monde comme ça. Alors, ça n'existe plus. Mais ça a été volontairement gommé de la langue française. Alors, je ne me rappelle plus à quelle époque précisément, mais c'est une démarche volontaire d'éradiquer les dénominations féminines des professions en particulier.
Je me disais aussi que sur
un
bateau...
Pour garder les femmes au foyer.
Et puis sur un bateau, partir plusieurs mois.
Ah oui, ça c'est encore envoyé.
Voilà, je ne serais pas partie sur un bateau plusieurs mois si j'avais été une femme, je pense, entourée d'hommes. Encore une fois, je te remercie beaucoup de t'être prêtée au jeu et merci beaucoup Lady Scott.
Merci Julien.